Donc là, on a la Mishnah numéro 9, tête. Shimon ben Shetar, donc la Chavruta de Yehuda ben Batabai, lui aussi dit trois choses. Avait marbé l'arcor et taridim. Quand tu es au tribunal, prends l'habitude de beaucoup interroger les témoignages. Ne laisse pas le témoignage aller comme il les voit. Vérifie si ce qu'ils disent est exact. Est-ce qu'il est vrai? Première chose. Avait Zahir bidvarecha. Fais attention à ce que tu dis. Shema betoram ilmedu les shaker. Parce que peut-être qu'ils vont apprendre de tes paroles du mensonge. Alors on va voir ce que ça veut dire. Le Maharal explique comme ça. Il dit, Ave marbe l'arkor et taedim. La notion de témoignage dans la Torah, elle est fondamentale. Elle fait partie des 10 commandements. Ne pas faire de faux témoignages, c'est le 9e commandement. Le Shabbat, qui est le 4e commandement, qui est en face de « tu ne feras pas de faux témoignages », est un témoignage, lui-même est une édoute, c'est pour ça qu'on se met debout quand tu dis « Vayecholo », d'après plusieurs vues, d'après le Taz et d'autres, parce que on témoigne que Dieu a créé le monde. La possibilité de témoigner, c'est quelque chose de fondamental à toi. Témoigner, c'est pas simplement dire la vérité. Témoigner, c'est dire la vérité en se mettant en danger. Au point où vous savez que dans le témoignage, il y a une halakha, que si quelqu'un témoigne et que son témoignage est faux, ce qu'il veut faire subir à l'autre de façon mensongère va lui retomber dessus, au point où c'est lui qui sera, s'il a voulu témoigner que quelqu'un, par exemple, est passible de 39 coups de bâton, si on vérifie que c'est faux, si deux autres témoins disent « mais tu n'as pas pu voir cet homme manger du cochon à Paris » lundi 9 février à 8h du soir, puisque lundi 9 février à 8h du soir, vous étiez avec nous à New York. Vous n'avez pas pu le voir. Eh bien, ils reçoivent sur la tête ce qu'ils ont voulu donner à ce pauvre bonhomme. C'est eux-mêmes qui seront frappés 39 coups de bâton. Et c'est pareil s'ils veulent, ils accusent quelqu'un de meurtre. Ils disent, ce Rouven, le 2 février à Paris à 9h du soir, a tué Shimon. Et deux autres témoins viennent dire, vous n'avez pas pu voir Rouven tuer Shimon à Paris le 2 février à 9h du soir. Le 2 février à 9h du soir, vous étiez avec nous en Inde, à Bombay. Donc vous n'avez pas pu le voir, donc vous êtes des menteurs. On les tue. Ils ont voulu tuer quelqu'un, on les tue. Ça s'appelle « Ve'asitemlo kasher zamam ». C'est-à-dire qu'on leur fait, ce qu'ils ont voulu faire revient sur lui. Mais tout le monde dit que c'est une façon de dissuader, de faire que le mensonge ne soit pas un faux mensonge. C'est vrai, il y a un facteur de dissuasif. Le fait que tu peux recevoir la peine que tu influes aux autres fait que tu fais attention à ce que tu dis. C'est certain. Mais c'est plus loin que ça. C'est que c'est un niveau de parole. Témoigner, c'est pas simplement une parole journalistique, une parole détachée, une parole objective sur un fait. Témoigner, c'est en même temps être objectif. Je parle de quelque chose qui n'est pas moi, mais je parle à un niveau de vérité où si je me trompe, je meurs. Ou si je mens, je suis frappé. Ou si je mens, je me blesse. C'est un niveau de crédibilité du regard. C'est un rapport à la vérité. C'est un rapport au monde. C'est un rapport à l'être. C'est un rapport au phénomène. Et ça va très loin. C'est que le peuple juif a inventé le témoignage. Témoigner, c'est pas simplement réciter ce que j'ai vu. C'est pas, alors si vous amenez une caméra qui a filmé un meurtre, on peut pas tuer le bonhomme. Ah, pourtant la caméra, elle a vu mieux qu'un témoin. Elle t'apporte les faits. Non, ça vaut rien. On peut pas tuer quelqu'un avec une caméra. Pas simplement parce qu'on peut trafiquer le film aussi, mais parce qu'il n'y a pas de parole de témoignage. Un témoignage, c'est un être vivant, un juif, qui en même temps parle de quelqu'un qui n'est pas lui, et dont les implications sont pas pour lui, mais qui peut potentiellement lui retourner sur la tête, ça être pour lui. Témoignage, c'est une vérité qui implique, qui oblige, qui fait que je suis concerné. Et ce rapport entre une vérité objective, alors si quelqu'un est proche, un karov ne peut pas témoigner. Il faut une objectivité, il faut une dimension que l'autre n'est pas moi. Je ne peux pas témoigner sur mon fils, sur mon frère, sur mon père, sur ma famille, sur des gens trop proches, je n'ai pas le droit. Parce que je n'ai pas ce rapport d'objectivité, ce rapport de distance, ce rapport de distance. Mais pour que ce rapport de distance ne soit pas dans l'indifférence, ne tombe pas dans un rapport, un discours objectif qui ne me concerne pas. Il y a la loi du kasher zamam où je peux recevoir sur moi exactement ce que je voulais donner aux autres. Et ça donne une relation. Quand je parle de l'autre, je parle aussi un peu de moi. Ça donne un niveau de clairvoyance au regard et à la parole, qui est inimaginable dans une parole détachée, qui ne risque rien, la parole qui triomphe aujourd'hui, la parole journalistique, qui est la parole du mensonge. Par excellent, même si ce qu'ils disent est vrai, parce qu'il n'y a pas d'implication personnelle. Un vrai témoignage, c'est quand la personne est en même temps objectif et en même temps impliquée. Quand on a ces deux notions-là, on est dans un vrai témoignage. Et pour arriver à ce vrai témoignage, dit Shimon ben Shetach, tu dois beaucoup l'arcore. C'est-à-dire que tu dois beaucoup vérifier d'abord la logique immanente, la parole du, qui n'est pas de contradiction, bien sûr, que le discours se tienne, mais que surtout ce discours soit un discours qui correspond à la vérité. Mais cette vérité, pas simplement de l'histoire logique qu'il raconte, mais de la vérité de ce que lui dit par rapport à ce qu'il dit. C'est-à-dire à quel niveau il se contredit dans lui-même, à quel niveau ce qu'il dit n'est pas absolument précis, n'est pas absolument lié aux enjeux, lui faire comprendre les enjeux de son témoignage. Et bien entendu, cette notion des témoignages, on peut l'extrapoler en dehors du Beit Din. Vivre une vie, c'est d'être capable de témoigner. Le témoin, c'est d'être le reflet de quelque chose qui est autre chose que moi. On dit que Am Israël, c'est le témoin de la Torah et de Dieu sur terre, de la vérité sur terre. Et il est comparé à la lune, parce que de la même façon que la lune témoigne la nuit de l'éclat du soleil, le peuple juif témoigne dans l'histoire de l'éclat de la vérité de la Torah et en ultime niveau de Dieu. C'est le témoin de Dieu. Or, quand je suis témoin, je suis en même temps celui qui témoigne, c'est pas moi, Dieu, c'est pas moi, Dieu préserve. La Torah, c'est bien fini en plus grand que moi. Mais je suis impliqué dans cette vérité. Ça me concerne. Et comme ça me concerne, je suis rédimé. Une partie de mon existence est tressée et constituée par le souffle divin. C'est ça être témoigné. Mais ce témoignage peut très 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 vite sombrer dans le mensonge. Parce que tout discours qui s'échafaude, qui se monte à partir d'un rapport à l'autre, peut à chaque instant être faussé. À chaque instant, il peut être faussé. Parce que je peux commencer à raconter ma propre histoire. Je peux commencer à développer une vision des choses qui se détache de la vérité. Ou je peux, par exemple, essayer de dire juste la vérité sans faire marcher ma conscience. Et là aussi, je vais apporter une vérité déformée parce que l'homme n'a pas une capacité de redire exactement ce qui s'est passé. Et donc, on est ici dans le nœud de la vérité. Le nœud de la vérité demande un travail de chakira, d'énorme attention, d'exigence extrême, de retour méticuleux sur toutes les étapes de ton témoignage. On ne peut pas parler de vérité, ni bâtir un discours de vérité, si à chaque instant il n'y a pas cette tension, où on sait qu'à chaque instant ça peut glisser. Ça peut glisser dans un discours qui s'échappe de la réalité, qui ne dit plus exactement ce qui s'est passé, qui ne dit plus la vérité, qui part dans une autonomie du discours qui s'alimente lui-même, qui n'est plus connecté ni à la vérité, ni à la réalité. On peut d'un autre côté sombrer dans un rapport objectif d'inventaire. Je dis que et dans ce cas-là, comme je ne suis pas impliqué, l'acuité et la crédibilité du regard sombrent. Et on te dit non, il faut toujours être dans ce rapport d'équilibre où je garde l'extraordinaire rigueur de dire les choses objectivement, de ne jamais en rajouter, mais avec une tension de vérité où je sais que cette vérité, c'est à la vie et à la mort. Je suis concerné par elle. Et ça demande une chakira perpétuelle. Ça demande une attention, une exigence, une exigence énorme, un rapport méticuleux, absolument énorme, non seulement par rapport à ce que je vois, par rapport à ce que je dis, et par rapport à mon rapport aux choses. Et donc là, ça nous apprend, au-delà même du tribunal, qu'on ne peut pas vivre dans le délire, on ne peut pas vivre dans des histoires, dans nos rapports aux autres, dans l'analyse que j'ai par rapport à moi-même, dans l'analyse que j'ai par rapport aux autres qui m'entourent, dans l'analyse que j'ai par rapport à l'existence, je suis obligé d'avoir ce double rapport. Accepter, un, la réalité. S'il n'y a pas de spiritualité sans honnêteté, si je ne suis pas capable d'accepter mes défauts, d'accepter la réalité qui m'entoure, d'être capable de voir véritablement ce qui s'est passé, ce qui se passe, tout mon discours est faussé à la base. Si mon discours est alimenté par la passion, par le désir, par la volonté que ça soit comme je voudrais que ça soit, et donc je projette des histoires, je suis complètement à côté de la plaque. si mon discours s'alimente avant tout d'une crédibilité, d'un rapport conforme à la vérité, à la réalité. Je peux la toucher, la vérité, à deux conditions. Un, que j'accepte la vérité telle qu'elle est. Deux, qu'une fois que je vois cette vérité, je ne la vois pas de façon distance, où je m'implique, où je suis capable de m'impliquer dans la compréhension de cette vérité en comprenant que cette réalité qui m'entoure, elle est aussi constituée par moi. Je suis constitutif de la vérité qu'il a faite. J'ai ma responsabilité dans ce qui se passe autour de moi. Quand je fais ce double mouvement, je deviens ce qu'on appelle un mensch, un homme. Je deviens quelqu'un qui est un homme au sens de l'humanité. Une femme peut être un mensch. Ça veut dire que je rentre dans la notion de droiture. La notion de droiture, d'honnêteté, qui est fondamentale à tout rapport spirituel. Et donc le texte continue, il dit, mais, bien entendu, ce rapport du témoignage, ce rapport à la vérité, cette exigence et cette rigueur par rapport à la vérité, il faut faire très attention, parce qu'elle demande cette rigueur et cette exigence, elle demande à un moment donné de ne pas dire n'importe quoi, bien entendu, mais aussi d'être capable de dire une chose et son contraire. C'est qu'on doit être capable de voir tous les angles, d'analyser, d'être honnête, d'être ouvert dans cette honnêteté. De voir les choses comme ça, ou peut-être comme ça, ou peut-être au milieu. Et donc, on va ouvrir, on va pas être dans un discours idéologique. On va pas être dans un discours de convaincre. On n'essaie pas de convaincre qui que ce soit. On essaie de dire la vérité. Quand on essaie de dire la vérité, on voit toutes les facettes, même celles qui sont pas vraies. Et ce qui pourrait peut-être l'être. On est capable de développer une pensée des contraires. Il y aura toujours des gens de mauvaise volonté qui vont écouter une parole qui n'était qu'à un moment une des facettes de la problématique pour l'utiliser pour le mensonge. Et là, on rentre dans un problème énorme, énorme, énorme. C'est que dans le rapport de vérité, le rapport qu'on a aux autres, est-ce qu'on peut tout dire? Est-ce qu'on peut mettre toutes les cartes sur la table? Est-ce qu'on peut être ouvert? On doit être ouvert. On doit être vrai. On doit être honnête. On doit avoir un discours qui est conforme à l'exigence, à la rigueur de la recherche de la vérité. Mais très souvent, cette recherche de la vérité, cette rigueur, peut se retourner contre toi. Parce que dans cette rigueur, dans cette vérité, dans cette honnêteté intellectuelle, tu vas dire des choses que si elles sont isolées, elles peuvent aller contre toi, elles peuvent même être utilisées négativement. Et si la personne en face de toi est de mauvaise foi, elle va pas voir ce qu'il y a à côté, ce que tu as dit avant, ce que tu as dit après. Elle va voir juste ce qui l'intéresse de prendre pour l'isoler et pour en faire un instrument de mensonge ou pour t'attaquer toi ou bien pour dire autre chose qui est le mensonge total. Et donc on dit à ce moment-là, il faut faire attention. Fais attention à comment tu formules les choses. Tu dois avoir l'intelligence d'un discours qui en même temps analyse toutes les facettes, qui en même temps voit, unifie tous les contraires, qui en même temps est capable dans l'honnêteté de ne pas être un discours de propagande, de volonté, de fermeture, mais inscrire toutes ces dimensions dans un discours unique qu'on ne peut pas fracturer et qu'on ne peut pas utiliser. Fais attention que ton discours de vérité ne se dégrade pas en discours de propagande. Fais attention que ton discours de vérité soit articulé de telle façon qu'on est obligé de le prendre entièrement, qu'on ne peut pas en prendre des parties pour en faire des instruments de mensonge. Fais attention que les personnes n'apprennent pas à partir de l'exercice du pile-poule, à partir de l'exercice de la recherche de la vérité, exactement son contraire, qu'est le mensonge. C'est ce qu'il écrit dans ce texte. C'est très profond, c'est très difficile, mais c'est fondamental. Parce qu'on ne peut pas faire l'économie de la finesse de l'analyse, mais on ne doit pas, au nom de cette finesse de l'analyse, on ne doit pas ne pas être indifférent aux possibilités de dégradation de cette finesse, qui peuvent des fois amener à son contraire, qu'est le mensonge. Et donc, il faut avoir cette vigilance, cette rigueur, cette honnêteté et cette ouverture à la vérité qui est le propre de l'étude de la Torah et de la vie du tzaddik. Alava yalenu.